Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 1er décembre 1991. La France de Yannick Noah, Henri Lecomte et Guy Forget remporte la Coupe Davis. Nous sommes le 1er décembre 1991 au Palais des Sports de Gerland à Lyon. Les 6500 spectateurs, en majorité des Français, soutiennent leur chouchou. Le tennisman français Guy Forget qui affronte un jeune Américain nommé Pete Sampras. Le Français mène 2-7 à 1. Mieux encore, après un ace, Guy Forget a une balle de match au bout de la raquette. Les spectateurs bouillonnent à tel point que l'arbitre demande le silence.
Silence, s'il vous plaît. Merci. Merci, madame.
Guy Forget s'apprête à servir pour la victoire et pour l'histoire. Le public, quant à lui, retient son souffle. Il s'élance.
C'est fini, Michel.
C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh là là. Extraordinaire. Quel moment d'émotion ici en direct au Palais des Sports de Lyon.
3-6.
Sur le terrain, Yannick Noah, Henri Lecomte, Fabrice Santoro et toute l'équipe de France courent vers Guy Forget, sans lasse, ivre de joie. Les tennisman français pleurent de bonheur. Ça y est, ils l'ont fait, ils sont champions. Ils viennent de remporter la Coupe Davis et sont sur le toit du monde. En finale, ils ont battu les Américains, tenants du titre et leur star mondiale, André Agassi. 9 ans après, les tricolores tiennent leur revanche sur leur finale de Coupe Davis perdue en 1984 face aux Américains. Alors ils peuvent danser et pousser leur capitaine et chanteur Yannick Noah à chanter son tube Saga Africa en plein milieu du cours, faisant participer le stade tout entier. « 59 ans après les mousquetaires de René Lacoste, les Français décrochent donc leur 7e saladier d'argent sous les yeux de Jean Borotra, présent au Palais des Sports de Gerland. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J. »
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Jour J qui tape la balle ce soir et qui vous rappelle les grandes heures du tennis français. Nous sommes le 1er décembre 1991. La France remporte le fameux saladier d'argent, la Coupe Davis, 59 ans après ceux que l'on appelait les mousquetaires et qu'il avait donc remporté en 1932. Tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Bonsoir Henri Lecomte.
Bonsoir.
C'est vrai que ça ne nous rajeunit pas.
On a pris un coup de pelle.
Oui, c'est ça, parce que j'étais en train de parler et je vous guettais en même temps et je me disais... Ouais. En voilà un qui semble prendre un coup sur la cafetière, je dirais.
Oui et non.
Ouais, bah oui, ça passe vite le temps. Et en même temps, les souvenirs sont quoi ? Sont exactement
sont toujours
les... là. Et oui, racontez-nous un petit peu. Parce que moi, si je viens de raconter cette victoire avec mes mots, à vous maintenant de nous décrire cette émotion.
Mais il y a toujours de l'émotion. Il y a toujours ce moment extraordinaire qu'on a vécu avec nos potes, avec Yannick, avec Guy, avec Arnaud Butch, Olivier Delettre, Santoro, toute l'équipe. Ça a été un moment extraordinaire parce que... Même encore aujourd'hui, 30 ans après, on en parle encore.
Ouais. Entre vous ?
Entre nous, et puis surtout les gens,
oui, quand nous, on parle
Davis,
encore, évidemment.
Mais entre nous, alors ce qui est simple, et c'est amusant, parce que j'ai revu quelques images, parce que grâce à la technique d'aujourd'hui, on peut voir des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Et je me souviens, là, j'ai vu ça il y a récemment, on est dans la douche avec Guy Forget en short, t-shirt trempé, parce qu'il y a les caméras. Donc, et là, Guy vient de gagner la Coupe Davis, quoi.
Ouais.
Quand même 30 ans.
Ouais, 50, ouais, c'est clair.
9 ans après, et on est tous les deux et on discute du match. Oh mais t'as vu la volée que j'ai fait, mais t'as vu sur la balle de break, mais on était encore complètement absorbés par ce match, cette victoire.
Ce moment d'histoire aussi.
On n'était pas complètement libérés, on était encore dedans.
Mais est-ce que vous avez eu conscience du moment d'histoire que vous étiez en train de vivre ?
Non.
Non, parce que c'est souvent ça comme ça. Quand on vit une grande émotion, on ne réalise pas non plus à quel point cette émotion marque finalement l'histoire.
Oui, mais il faut savoir que nous, on était en immersion complète pendant un mois.
Mais oui.
Yannick, il avait enlevé toutes les télés dans les chambres.
Ouais.
On n'avait pas le droit de lire les journaux. Quand on voyait nos amis et que Trudy ne disait rien.
Et vos épouses ?
Ah non, les épouses, elles
vous avaient abstinence, pas le droit.
Abstinence totale. On pouvait rien.
Pour arriver bien
pour
en
arriver
forme.
Bien en forme. Et on a vécu un mois, mais c'était militaire.
Non, mais alors justement, on va revenir quand même sur toute cette équipe et toute cette bande.
On était chaud.
Justement, de la Coupe Davis, ça j'imagine. Non, parce que quand même, Yannick Noah, il devient capitaine grâce à vous tous.
Yannick Noah devient capitaine grâce à Patrice Agelauer. Et c'est Patrice qui va le voir lorsqu'il est encore joueur.
Oui, mais lui, il dit « je veux aussi que tout le monde soit d'accord, quoi ».
Ah bah oui, non mais c'est évident. Vous savez, ouais. Vous pouvez pas être capitaine de Coupe Davis ou capitaine dans n'importe quelle discipline si les joueurs ne vous acceptent pas.
Oui.
C'est un peu compliqué.
Oui, mais enfin, bon, on vous a demandé votre avis.
Bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
Et vous avez donc été d'accord pour que votre pote Yannick Noah devienne le capitaine.
Attention, il voulait être capitaine, peut-être joueur aussi.
Ah, ce qui n'a pas été.
Il n'a pas été.
D'accord, parce ça c'est parce
fort.
Que... Ah, parce que vous avez refusé qu'il soit joueur aussi.
Non, mais lui voulait jouer. Il aurait peut-être voulu jouer.
Mais j'imagine que ça a dû le titiller en tant que capitaine sur le bord du court, quoi.
Bah, lorsqu'on voit les images, vous voyez, Yannick, il est debout du matin au soir, il saute, il vit avec nous le match.
Ouais.
Et c'est aussi c'est ce qui a fait sa force.
Ça ne démarrait pas dans les meilleures conditions à cette époque-là pour vous. Vous aviez des problèmes de dos.
Moi, j'ai des problèmes de dos. C'est la troisième hernie discale opérée au mois fin août. Mmh. Je vais voir la demi-finale à Pau lorsqu'on se qualifie contre la Yougoslavie à l'époque. Mmh. Et Yannick et Patricia Jeuleur me disent « Écoute, Henri, on doit gagner la Coupe Davis avec toi. On va la gagner avec toi. Donc, tu te prépares pour le double puisque vous êtes invaincu en double avec Guy. »
Et comment vous vous êtes préparé justement pour ce retour gagnant?
Alors là, Flavie, j'ai vécu un moment extraordinaire. Je ne suis pas allé dans les 5 étoiles pour faire de la thalasso et René. Je suis parti dans un centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale à Douarnenez, à Tréboul, à côté de Quimper.
Bon, déjà, c'est un coin magnifique.
Magnifique, que j'adore.
Ah, moi aussi. On s'y est pas croisé.
Ouais, ben, d'accord. Est-ce que tu as navigué en dragon?
Non, j'ai pas navigué en dragon. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de naviguer en dragon?
Voilà. Et donc.
Alors, racontez-nous. Ça a été militaire.
Oui, c'était extraordinaire. Je suis parti là-bas avec un ami qui s'appelait Patrick Chamagne, qui lui avait malheureusement avait connu ce centre de rééducation parce qu'il avait eu un accident de moto. Et il me dit, on y va. Il y a un médecin, il s'appelle Gilles Solo. Tu vas voir. Ils ont une équipe extraordinaire et on recommence à zéro. Et donc, j'arrive dans ce centre de rééducation. Je vois Gilles Solo, le médecin, il regarde mes radios, il me fait, c'est pas gagné.
Ça va pas le faire.
Ça va pas le faire parce que là, 3 hernies discales opérées, pas facile. Mais il me dit, avant, tu vas aller au premier étage et puis tu vas voir, il y a quelqu'un qui t'attend. Je vais au premier étage et là je me retrouve avec un gamin qui avait fait une bêtise, il avait pris une mobilette ou un scooter et il était tétraplégique. Et il me regarde droit dans les yeux et il me fait « Tu vas la gagner Henri, la Coupe Davis hein. ». Alors Flavie, je pense que là à un moment, on se dit « J'ai pas le choix, je marchais à peine ». Je peux vous dire qu'après, on a travaillé, on a bossé jusqu'à pour être prêt pour le tournoi de Bercy avec Yannick.
Et justement, Yannick Noah, on l'écoute tout de suite, parler de vous.
Henri avait envie de jouer, Henri a fait le maximum pour se préparer pour ce match, il était très motivé, il y a encore 3 mois il était en pleine récupération, il ne savait pas s'il allait pouvoir retrouver le plus haut niveau et puis il a énormément travaillé, il a cravaché à l'entraînement, si c'est ça un coup de poker, oui c'est un coup de poker, mais enfin encore une fois Henri a prouvé de par son jeu, ses qualités, qu'il était capable de battre n'importe qui, n'importe quand, à des moments où on l'attendait peut-être pas.
Il parle d'un coup de poker, mais d'un coup de poker conscient. C'est-à-dire qu'en fait, il met la confiance qu'il a en vous dans cette aventure.
C'est toujours émouvant d'écouter Yannick. Parce que c'est à 30 ans, quoi. On a marqué. Pour moi, c'était tellement important.
Mais c'est ça, vous étiez 150e joueur mondial à l'époque, donc des problèmes de dos. Donc en fait, vous avez un capitaine qui mise sur son riton, quoi.
Oui, parce que Yannick, il me connaît. Il sait que si on aime Henri et qu'on lui donne tout, il est capable de créer la surprise. Et j'étais le joueur pour pouvoir certainement réaliser cet exploit. Parce que jouer sans brasse, c'était pas n'importe qui, quoi. Et moi, j'avais pas de résultat. J'avais fait 2-3 matchs auparavant. Alors il est vrai que Guy, oui, avait des résultats, il avait gagné Bercy contre lui en 5-7, mais il savait que avec moi, tout était possible.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Henri Lecomte est notre invité dans ce jour J qui vous emmène sur un court de tennis. Mais pas de panique, hein, vous n'allez pas taper la balle ce soir. Ici,
pourquoi
on laisse faire les champions. Alors là, écoutez, franchement, Henri Lecomte, vous pourriez m'emmener sur un court de tennis.
Avec plaisir.
Mais alors, faudrait tout m'apprendre.
Aucun problème.
Alors justement, vous allez tout nous apprendre sur le fonctionnement de la Coupe Davis parce que moi, en préparant cette émission, j'ai pas tout compris. Mais on revient sur un événement. L'événement de cette victoire, 59 ans après celle des Mousquetaires. Et justement, à l'issue de cette finale, ce 1er décembre 1991, donc de la Coupe Davis, René Lacoste, l'un des deux derniers Mousquetaires encore en vie avec Jean Borotra, rend hommage à l'équipe de France.
C'est le troisième plus beau jour de ma vie. Le premier, c'est celui où j'ai épousé ma femme, vous permettez. Le deuxième, c'est celui où nous avons gagné la Coupe Davis à Philadelphie. Et le troisième, c'est celui-là. Et ils ont tous été formidables. Le compte a été prodigieux. L'équipe de France en deux doubles, tous les deux, merveilleux. Et forgé aujourd'hui, fabuleux. Mais avant tout, c'est l'esprit d'équipe et l'influence de Noah a été capitale. Et de tout mon cœur, je le félicite.
Hey, oh là vous là. Étiez ému tout à l'heure en écoutant Yannick Noah. Vous allez en avoir pendant toute cette émission, vous allez voir. Mais là, quand même, quel hommage!
Oui, parce qu'on oublie. Ouais. On oublie ces mots et en plus, on a l'impression d'écouter le général de Gaulle en plus.
Oui, c'est vrai. Il avait plus de 90 ans à l'époque.
Mais ils étaient là, mais on avait un immense respect. On sentait cette puissance des mousquetaires, mais c'est surtout cette joie que je me ferai toute ma vie de voir René Lacoste et Jean Borotra dans les vestiaires avec nous.
Vous aviez vos maîtres, en fait, quelque part.
Oui.
Et puis, attends, mais même, enfin, vous ne les aviez. C'est même pas eux qui vous ont inspiré, quoi. Vous êtes trop jeune pour ça.
Non, il y a eu René Lacoste parce que c'était notre partenaire, sponsor, avec Guy. Guy avait une relation un peu plus particulière parce que Guy jouait avec une raquette un peu bizarre. C'était la Lacoste d'ailleurs, mais elle était faite un peu bizarre.
Ouais.
Et on ne va pas refaire l'émission, mais c'est une histoire qui est très belle parce que René Lacoste, il dit voilà, essaye ça, tu verras. Puis en fin de compte, ça a fonctionné parce qu'il était très innovateur, René Lacoste. Mais les autres, non. Et c'est vrai que moi, je me souviens aussi d'Yvon Petra qui était sur Roland-Garros. Donc, on est une génération, on se souvient des anciens parce qu'on prend, on a beaucoup de respect. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de... Bien sûr qu'ils en ont, mais c'est totalement différent.
On va revenir sur le tennis d'aujourd'hui un petit peu plus tard. Mais enfin, en tout cas, ce René Lacoste, effectivement, vous a rendu hommage. Et donc, cette victoire dont on parle ce soir, c'était le troisième plus beau jour de sa vie après son mariage avec son épouse et sa propre victoire donc à la Coupe Davis. Pour ceux qui ne connaissent pas ce tournoi, comment est-ce que la Coupe Davis se déroule? Parce que c'est pas un tournoi classique. Alors moi qui n'y connais rien et qui ai déjà du mal à taper dans la balle, pour piger la Coupe Davis, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas.
C'était une épreuve qui se déroulait sur 3 jours.
Ouais.
Donc on était une équipe, l'équipe de France, on devait jouer 4 simples et 1 double.
D'accord.
2 simples le premier jour. 1 match de double le samedi et 2 matchs de simple le dimanche. En croisé, ça veut dire que lorsque on jouait, par exemple, je jouais Pete Sampras le premier jour, je devais jouer André Agassi le dernier jour. Et ça, c'était en fonction du classement. Et donc, lorsque tu fais 3 points, et ben, tu gagnes la rencontre. Alors parfois, tu fais 1 partout, puis après ça fait 2 partout, puis le match décisif, et ben, c'est le dernier match qui aurait pu se passer d'ailleurs pendant ce match à Lyon.
Et comment on attribue justement ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, les matchs, comment ça se passe?
Alors ça se décide entre c'est le capitaine, c'est pas en fonction du classement ATP, c'est en fonction du joueur du moment qui se sent dans les meilleures dispositions.
Parce que vous avez joué, Fabrice Santoro, il n'a pas joué la finale.
Il n'a pas joué la finale parce qu'on doit décider aussi le nombre de joueurs le mercredi avant le déroulement des matchs le week-end.
Ah, donc c'est décidé à l'avance, on ne peut pas bouger.
On ne peut pas bouger. Tu dois choisir 4 joueurs. Donc c'est pour ça que Fabrice Santoro n'était pas dans l'équipe et qu'à la fin, même Yannick lui a donné la Coupe Davis parce qu'il a quand même contribué à gagner la Coupe Davis puisqu'il a gagné le match décisif contre l'Australie à Nîmes, quelques mois plus tôt. Et après, lorsque tu as choisi tes 4 joueurs, s'il y en a un qui se blesse, c'est fini.
Alors comment ça se passe?
Eh bien, on peut, à ce moment-là, on alterne avec des joueurs de simple, on peut le faire jouer en double, après on joue avec les 3 autres. Comme nous, par exemple, avec Guy, on a joué les 3 jours.
Ouais.
Et il n'y a personne qui a joué, donc, parce qu'on était capable de le faire.
3 jours, c'est intense.
Oui, parce que là, c'est en 5-7. Alors, quand je vois aujourd'hui qu'on ne veut pas jouer 3 jours, je demande rien.
C'est-à-dire?
Non, on ne va pas rentrer.
Bah si, expliquez-moi.
Mais quand il y a des joueurs qui disent « Non, je suis trop fatigué, je jouais 3 jours de suite », ce n'est pas la même limonade. C'est la Coupe Davis, ça te galvanise, c'est autre chose.
Où est-ce que vous la situez, vous, la Coupe Davis, dans l'ensemble des tournois que vous avez pu jouer? Je ne parle pas de cette victoire-là, mais ce tournoi en lui-même, qu'est-ce qu'il avait de si particulier?
Alors pour nous, notre génération des années 70, 80, 60, la Coupe Davis était très, très importante. Mmh. On mettait les 4 tournois du Grand Chelem. C'était l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open, et après la Coupe Davis.
Ouais. C'était
Alors, le problème de la Coupe Davis, c'était pas simple, parce qu'il faut savoir que nous, on est un sport individuel et qu'il faut faire beaucoup de concessions. C'est pour ça qu'on l'a gagné en 91. Parce que lorsque vous avez un capitaine comme Yannick Noah avec une forte personnalité, un joueur comme Henri Lecomte avec une autre forte personnalité et Guy Forget qui, lui, a sa personnalité, mais plus introverti.
Mais tout aussi puissante.
Il faut se mettre autour d'une table et parler. C'est ce qu'on a fait.
Alors, vous avez parlé et il paraît même que vous avez versé votre petite larme parce qu'il paraît que Noah, il a dit que sans vous, la France, elle ne pouvait pas gagner la Coupe Davis.
Oui, quand quelqu'un vous dit ça et que vous êtes au fond du trou,
C'est ça.
Il ne faut pas oublier que moi, je reviens de nulle part. Je fais 1988 finale de Roland-Garros, un discours qui ne passe pas bien. Je me mets à dos toute la France. Les Jeux Olympiques, je fais alors une totale aussi. Lorsque tu fais une boulette, lorsque tu fais une erreur, tu y vas jusqu'au bout. Et donc, j'ai senti vraiment que cette Coupe Davis, ça pouvait changer ma vie. Et ça a changé ma vie.
Elle vous a sauvé quelque part, cette Coupe Davis?
Ah oui.
Yannick Noah, en fait, quelque part aussi, en vous donnant cette confiance que vous-même, vous aviez peut-être perdue en vous, vous a permis de remonter une sacrée pente?
Bien sûr, parce que j'allais dans une direction qui n'était pas bonne. C'était la petite mort. C'était, voilà, j'ai fait quand même une bonne carrière.
Très belle carrière.
Mais la Coupe Davis, c'est le Graal. Pourquoi? Parce que lorsque je me suis préparé pour cette Coupe Davis, ça a été pour moi voilà, une résurrection, une motivation, une détermination et surtout une opportunité. Je disais merci mon Dieu de me redonner une opportunité pour prouver aux gens que j'étais capable de gagner des matchs importants. Et après, lorsqu'on est déterminé comme quoi le cerveau et le corps humain est une machine extraordinaire, eh ben on peut déplacer des montagnes et surtout voler, quoi, parce que j'ai volé pendant 3 jours.
Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit, merci pour votre fidélité et votre écoute attentive. Henri Lecomte est notre invité. Alors ce soir, Henri, mmh. On se souvient aussi de la Coupe Davis 1991 et on pleure et c'est pas fini parce que dans un instant, on va effectivement revenir sur votre côté émotif. En tout cas, lors de la finale de la Coupe Davis en 91, vous jouez plusieurs matchs, notamment un double, vous en avez parlé avec Guy Forget, dans lequel vous affrontez deux Américains redoutables. C'est pas de la rigolade quand même, hein. Flash et
Guzzo. Ouais, alors eux, c'est la numéro 1, l'équipe la plus forte au monde.
Alors, vous êtes dans quel état d'esprit quand vous les affrontez?
Ah ben moi, je veux les tuer, moi.
Ah.
Parce que nous, on a une histoire quand même avec Yannick. On a perdu l'US Open avec eux. D'ailleurs, le joueur Ken Flack, qui malheureusement est décédé, a reconnu par la suite que oui, la balle l'avait bien touché et qu'on devait gagner le set et on pouvait gagner le match. Donc, compliqué.
Vous étiez là pour en découvrir.
Alors, il y avait la haine.
Alors là, racontez-nous ce que vous ressentez.
Bah là, j'ai des frissons encore.
Vous avez battu le monstre, quoi.
Surtout qu'on a commencé le match avec Guy, on a fait 17 points de suite. Ils n'ont pas fait un point. Ils savaient qu'ils allaient te manger. Et il est vrai que
c'est
par
énorme.
La suite, ça s'est un petit peu rectifié. On a perdu le troisième set, donc on gagne en 4-7. Mais on était sur un nuage. Et surtout, on avait un public. J'ai jamais vu un public pareil.
Mais parce que vous l'entraîniez.
Ah bah oui. Moi, j'avais déjà chauffé la salle contre Sampras. Au bout de troisième point, je l'ai regardé et il sentait qu'il se passait quelque chose.
Eh bien, vient le fameux match de Guy Forget contre Pete Sampras, que vous aviez vous-même effectivement battu 2 jours avant, souvenez-vous.
Mais c'est donc une deuxième balle pour Henri Lecomte. Elle est bien partie. Retour de Sampras. Retour perdant. Et Henri Lecomte dans les bras de Yannick Noah. Égalisation de l'équipe de France à un point partout. C'est un grand moment de l'histoire du tennis français. Henri Lecomte, le miraculé, opéré cet été du dos pour la 3e fois. Il était déprimé. On le croyait perdu pour le tennis. Et bien le revoilà qui rend l'espoir à l'équipe de France qui égalise à un point partout en battant le récent vainqueur du Masters, le 6e joueur du monde, 6-4, 7-5, 6-4.
Vous vous souvenez dans quel état était Hervé Béroux sur RTL? Et nous devant notre télé?
Non.
Vous imaginez au moins?
Non, parce que nous, on était dans notre bulle, on était dans la zone.
Ouais.
Et je me souviens simplement que quand je sors du terrain, je fais comme ça, 2. Il nous reste encore 2 points à faire. On était... Flavie, vous savez, lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on n'a pas le droit à la télé, on n'a pas le droit à la radio, on n'a le droit à rien,
vous êtes déconnecté,
on était
en fait.
Complètement déconnecté. On était dans notre propre bulle, c'était notre loft à nous, quoi, c'est vrai. Et après, on a réalisé par contre. Après, oui, là, ça a été violent.
Vient donc ce fameux match que j'ai raconté en tout début d'émission. La France remporte la Coupe Davis, donc vous. Et à la fin, Yannick Noah prend la parole.
Et je me souviendrai toute ma vie de la lettre que... Maxime Lecomte, le fils d'Henri, a écrit jeudi, où il a dit « Papa, je t'aime, tu gagnes la coupe pour moi et tu me la ramènes à la maison. » Maxime peut être très fier de son papa parce qu'il va lui ramener une coupe.
Soyez pas un peu émotif quand même.
Bon, moi,
même là, j'ai l'impression de vous torturer ce soir, Henri
non,
Lecomte.
Non, c'est beau, mais... On ne peut pas ne pas oublier, on ne peut pas... Moi, je suis très, très, très sensible. Je suis quelqu'un de... Tout remonte, tout ressort. Lorsque tu as Yannick qui parle de Maxime, qui parle aussi des moments qui ont été très difficiles pour moi, donc c'est normal que ça ressorte, c'est normal que ça revienne, on ne peut pas les oublier. Même aujourd'hui, Maxime il a 35 ans, aujourd'hui c'est mon fils qui a 16 ans, qui regarde des images et qui me dit « Papa, et on les voit ensemble et j'ai toujours cette larme et j'ai toujours un moment, même parfois je craque parce que c'est trop fort, c'est... voilà, on est des êtres humains. »
En fait, on a vraiment le sentiment que tout cet entourage, que ce soit donc votre fils, que ce soit Yannick Noah, que ce soit ce jeune garçon pendant la rééducation que vous avez croisé, qui vous avait dit bah vas-y, tu nous la ramènes la coupe, on a l'impression, pardon, avec le recul comme ça, que vous avez été animé par une volonté de rendre ce qu'on vous avait donné, quoi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais si, que si. Vous avez fonctionné à la gratitude. C'est ça qui vous a donné la force.
Je suis d'accord. Je pense que c'était ma deuxième vie. En fin de compte, c'est vrai que quand on passe un certain âge, à partir de 50 ans, on est une autre vie que j'ai aujourd'hui.
Ah ouais,
notre vie, moi, c'est ce que je ressens. J'ai eu une première vie fantastique, une deuxième vie où là, on fait totalement autre chose. Mais là, lorsque j'ai eu cette chance-là, et surtout, vous savez, quand le public est là, et il te dit « on t'aime, Henri ». Parce que j'ai vécu quand même deux années où...
C'était dur.
Bon, j'avais mérité, certainement. Mais c'était dur. Et là, tout d'un coup, mais on se sent... c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et de pouvoir faire passer ces moments-là, faire vibrer, rendre heureux ces gens qui, eux, ont rêvé d'un moment pareil, qu'est-ce que je vous dise de plus, c'est extraordinaire, c'est magique. Je souhaite à beaucoup de gens de vivre ça et de pour le partager, mais ça restera à vie, à jamais.
C'est la raison pour laquelle on en parle ce soir dans Georgie. Allez, on se retrouve dans un instant, on va prendre des nouvelles, de vos nouvelles, vous, là, qu'un cas flamboyant, là. Donc, vous avez l'air d'être plutôt bien dans votre nouvelle vie. Et puis le tennis français aussi.
On va
prendre des news. Allez, à tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes avec Henri Lecomte. C'est vrai que vous avez l'air zen, Henri Lecomte. Vous pouvez peut-être développer, non ?
Non,
c'est
oui,
vrai.
C'est vrai.
Enfin, on parle ce soir d'un événement en 1991. Vous nous racontez avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, à quel point cette victoire de la Coupe Davis a fait basculer quelque part votre vie et a remis, je dirais, aussi le monde à l'endroit, hein, parce que vous sortiez de deux années difficiles et douloureuses. Donc, tout à coup, c'est un regain de vie, de plein de choses positives dans votre existence. Et puis là, aujourd'hui, vous venez nous en parler. Donc 30 ans quasiment jour pour jour après, vous nous expliquez à quel point vous êtes serein.
Je suis serein parce que j'ai compris beaucoup de choses, parce que j'ai aussi... après, il faut accepter ce qui vous est arrivé, et puis surtout savoir pourquoi. On peut faire des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, on peut prendre des décisions qui sont parfois difficiles, mais il faut les assumer, et puis par la suite, lorsqu'on arrive déjà à se regarder dans une glace et assumer ce qu'on a fait, on peut rencontrer des bonnes personnes. Et là, j'ai la chance d'avoir rencontré Maya, qui est extraordinaire, qui m'a fait comprendre ce que c'était vraiment le corps humain, le cerveau, ce qu'on peut ressentir.
Qui est Maya, pour ceux qui nous écoutent ?
Maya, c'est ma compagne, avec qui on travaille. On a développé ma société, qui s'appelle Chelenco Performance, où on fait pas mal d'interventions dans les différentes sociétés, et notamment aussi le dépassement de soi, et connaître aussi les bons côtés et les mauvais côtés. Et lorsque je fais des interventions, je suis vrai comme aujourd'hui, ça veut dire que je parle des bons moments, mais aussi des très mauvais moments.
Oui, parce qu'il faut...
Il faut l'accepter. Et je crois aujourd'hui, c'est ça, c'est la force.
Est-ce que le tennis français vit de très mauvais moments ou des moments difficiles ? On le dit en petite forme en ce moment. Excusez-moi, mais dès qu'il y a Roland Garros, on se demande si les Français vont sortir encore plus tôt que l'année précédente.
Alors, je vais être un peu... j'ai toujours été un petit peu sévère. Je pense qu'on a eu une très bonne génération, même si on n'a pas quand même... On a eu des demi-finales, des finales Grand Chelem, demi-finales à Roland Garros. Le seul chose où je trouve un petit peu difficile, c'est lorsque nous, on s'est préparé avec Yannick pour Roland Garros. On le faisait vraiment, on était sur terre battue, on s'entraînait vraiment 2 à 3 mois auparavant. Il y a des choix qu'il faut prendre. Pour la nouvelle génération, on a Hugo Gaston qui est là, mais je pense que ça va être compliqué pendant 10-15 ans.
Bon, alors attendez, juste, je fais une petite pause et après on prendra des nouvelles du tennis français. Quand même, Guy Forget et Yannick Noah, la veille de la finale, ils faisaient la bringue ?
Non, Yannick, lui...
Guy Forget, il n'est pas parti avec Yannick ?
Non, Guy, non mais Guy, il dormait pas. Vous savez ce qui s'est passé ? Parce que sortir Guy, c'est impossible. Ah bon ? Il était tellement stressé, tellement tendu, que même ils ont échangé leur chambre. Ça veut dire qu'à un moment, Guy n'arrivait pas à dormir. Il y a le docteur Cousteau. Là, ce que je vous dis, c'est... Normalement, ça reste... Mais bon, le docteur Cousteau est allé dans la chambre de Guy, lui a massé les pieds. Il dit, je peux pas dormir. Et Guy,
parce que Guy aime les massages
Guy,
des pieds.
Bah oui, il était tellement stressé. Oui, mais Guy, c'est... Moi, à côté, je suis une petite fleur. Mon stress, moi, j'ai besoin de l'extérioriser. Donc, j'ai besoin de communiquer.
Donc, tandis qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, alors?
Il a appelé... Guy a appelé Yann. Il dit, je peux pas dormir. Est-ce que je peux dormir dans ton lit? On change de chambre. Il a changé de chambre. Parce qu'il dit, non, c'est pas bien l'orientation. Il n'y a pas assez de noir. Il faut savoir que Guy, pour dormir, il faut que ça soit blackout total. C'est qu'il y a une petite truc, mais il est hyper... Non, mais c'est...
Il doit être content quand il nous écoute ce
non,
soir.
Non mais Guy, mais j'adore mon Guy, je l'aime mon Guy, mais chacun ses qualités, d'accord. Chacun ses défauts.
D'accord.
Moi j'ai d'autres défauts aussi, mais bon.
Donc, bien sûr.
Je peux vous dire une seule chose qui est vraie. Yannick n'a pas dormi pendant 4 jours.
Ok.
Il est sorti tous les soirs. Et okay. Là, on l'a su après.
Mais
on
le voyait le matin.
Mais le capitaine, mais lui, je peux imaginer le stress qu'il a eu.
Il avait donc besoin d'évacuer le stress.
Connaissant Yannick, et il a beaucoup d'amis à Lyon, et les petits bouchons lyonnais, bon, c'est pas mal. Mais c'est vrai que le matin, il est vrai que le matin, il avait des petits yeux. Quand même.
Bon, ça a été un super capitaine. Vous avez remporté cette Coupe Davis en 91, vous nous avez fait rêver, ça a été un moment important pour vous. Et en fait, ce que vous reprochez aujourd'hui à la jeune génération, c'est peut-être de moins travailler que vous ne travailliez, vous, à l'époque.
Ou c'est différent.
C'est d'aborder le tennis d'une façon différente.
C'est un tennis qui a beaucoup évolué, ce n'est plus du tout la même chose, on ne peut pas comparer les générations. C'est un tennis qui aujourd'hui est devenu de plus en plus professionnel. Lorsqu'on voit les joueurs de très très haut niveau, ils sont réglés comme du papier à musique à une minute près. Après, c'est pas le reproche, après je trouve que pour aller chercher les places de 10e, de 5e joueur du monde, il faut faire des choix. Après, c'est pas à moi de leur dire, c'est eux qui doivent simplement dire ce que je veux, ce que j'aimerais faire, ou pas. Et je pense que aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est si on rate le train, bah, il part déjà le train. Le train, c'est pas un corail, c'est un TGV. Passer. Et le problème, c'est le deuxième TGV. Donc quand tu l'as pas pris, après c'est trop tard. Et ça va plus vite.
Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation, Henri Lecomte.
Mais avec
donc,
plaisir.
Je voudrais qu'on se quitte en parlant du documentaire sur les pas du lion.
C'est pas mal ça. Hein,
mais c'est joli, c'est un documentaire d'une vingtaine de minutes.
D'une vingtaine, 22 minutes. J'ai voulu rendre hommage aux personnes de l'ombre, ceux qui m'ont sauvé, ceux qui nous ont permis de gagner cette Coupe Davis. Donc j'ai fait différentes interviews avec les médecins, avec le kiné, avec les préparateurs physiques.
C'est génial.
Avec Jean-Claude Perrin, qui est c'est Stallone. Avec aussi mon mécène qui m'a aidé, avec tout le monde. Parce que s'ils n'étaient pas là, on n'aurait jamais gagné.
Où est-ce que l'on retrouve ce documentaire ?
On va le retrouver sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle En Replay. Hein, ouais. Merci Capucine. ça va être quelque chose qui va être aussi diffusé un petit peu dans différentes plateformes. Mais on lance vraiment la chaîne En Replay parce que je l'avais lancé pendant Roland-Garros. Donc on a fait pas mal d'interviews de personnalités. D'ailleurs, je voudrais faire l'autre.
Eh bien, je viendrai avec joie.
Prochain
Roland-Garros.
Que pensez-vous ?
L'invitation est lancée et je viendrai. D'accord ?
Et on jouera au tennis.
Génial, voilà. Exactement. Et je vous mettrai une petite raclée. Merci beaucoup, Henri Lecomte.